Bonjour à toutes et tous. Si vous vous intéressez aux questions de défense et de sécurité, vous savez ce que représente le salon Eurosatory qui se déroule tous les deux ans à Paris. C'est cette année la 28e édition qui se tient du 17 au 21 juin prochain à Paris-Nord-Villepinte. Et Eurosatory, qui sponsorise cet épisode, sera comme à chaque fois le grand rendez-vous mondial de la défense et de la sécurité. Je veux juste dire, c'est un événement que je trouve très étonnant, assez fascinant. J'y suis allé pour la première fois il y a deux ans pour l'édition 2022. Et vraiment, si vous vous demandez ce qui se fait dans le monde militaire et en matière de sécurité, c'est là qu'on peut voir les dernières tendances, depuis les plus grandes geekeries et les innovations du moment, jusqu'aux grands équipements du futur pour les armées et les forces de sécurité en France et dans le monde. Bref, si vous intéressez de près à ce monde-là, c'est le moment de vous inscrire pour ce qui sera la plus grande édition de l'histoire du Salon, avec plus de 1900 exposants et 60 000 visiteurs. Vous pouvez le faire en allant sur eurosatory.com. Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouvel épisode dans le viseur de récits d'opérations, en tout cas de récits de vie militaire. Aujourd'hui en partenariat avec l'école de guerre Terre et donc le commandant Arthur. Bonjour commandant.
Bonjour.
Et donc vous êtes ici pour nous raconter un souvenir. Alors on peut tout de suite dire de quelle arme vous faites partie, qu'est-ce que vous faisiez. Alors avant d'être à l'école de guerre Terre évidemment, puisque cette année vous suivez des cours.
Bien sûr.
L'époque.
Bien, que vous faisiez donc, avant d'être à l'école de guerre Terre, j'étais dans l'aviation légère de l'armée de terre.
Et alors, puisqu'on a eu il n'y a pas très longtemps le Comalat, le commandant de la LAT dans le podcast pour nous parler des perspectives de la LAT, mais aussi des différentes machines, quelle était votre monture sur la LAT?
Alors, moi, j'ai commencé ma formation sur Gazelle. Je suis passé ensuite sur hélicoptère de manœuvre, c'était mon choix, donc sur Puma, le bon vieux Puma. Et puis je suis passé sur un hélicoptère beaucoup plus moderne, sur lequel j'ai servi pendant les quatre dernières années opérationnelles, qui était le Cougar version rénovée.
D'accord. Donc ce sont les hélicoptères de manœuvre, c'est-à-dire les hélicoptères essentiellement de transport, qui peuvent transporter un certain nombre de personnel. On peut préciser, par ailleurs, que c'est à peu près... Bon, pour avoir une idée, c'est à peu près le segment qui correspond au Caïman qui arrive en service actif et qui va probablement remplacer progressivement les Pumas puis les Cougars dans les années qui viennent.
Oui, alors c'est vrai, même si c'est pas tout à fait exact, c'est-à-dire que en ce moment, vous avez dans notre flotte d'hélicoptères de manœuvre des Caïmans, des Cougars, un petit peu, et des Pumas. En effet, les Pumas vont disparaître dans les prochaines années. En revanche, le Cougar va encore durer un bon moment, étant donné qu'on l'a... On l'a rénové, on l'a rétrofité, comme on dit parfois, pour qu'il ait des capacités, au moins en termes d'optronique, c'est-à-dire de capteurs, de caméras, qui soient, et même de pilote automatique, qui soient égales, voire supérieures à celles du Caïman.
J'aime bien cette petite fierté de la machine, voilà. C'est très bien.
Mettre les choses.
Alors, l'histoire que vous allez nous raconter, alors, donc, remonte un peu, je crois que c'était donc en 2013 au Mali, donc on comprendra que c'était l'opération Serval, le déploiement rapide et prompt de l'armée française sur le théâtre sahélien. Donc à l'époque, vous étiez sur Puma, si je ne m'abuse.
Oui.
Et alors, placez-nous un peu peut-être le contexte. C'était à quel moment de l'intervention française au sein de Serval? Est-ce que c'était au début? Est-ce que c'était un peu plus tard? Puis combien de temps est-ce que ça faisait que vous étiez au Mali à ce moment-là?
Alors, en fait, c'était, sans donner de date très précise, c'était pas au début, pas au tout début de l'opération Serval. Donc les choses, globalement, c'était un peu calmé. D'ailleurs, ça a son importance pour l'histoire que je vais raconter. Globalement, il n'y avait plus énormément d'actions. Il ne se passait pas forcément grand-chose. On cherchait un petit peu des manières d'atteindre notre ennemi, parce qu'on savait qu'il était là, malgré tout. Il continuait à agir.
Rappelons toujours le déroulement de Serval, c'est les djihadistes se sont retirés très largement vers le nord, ont libéré beaucoup du territoire malien. Ensuite, il y a eu des combats vers le nord, et puis ensuite, il a fallu... On savait que des groupes djihadistes continuaient à exister, à écumer un peu le territoire, mais il fallait les trouver, quoi.
Oui, voilà, exactement. En fait, c'était après, bien après, quelques temps après la bataille des Adrar, celle qui est connue, donc qui s'est passée dans cette chaîne de montagnes qu'on appelle les Adrar, qui est au nord du Mali. Et donc, en effet, à partir de ce moment-là, les djihadistes avaient compris qu'il ne s'agissait plus pour eux de mener des actions de force de grande envergure, mais plutôt de mener des petites actions terroristes, pour le coup. On était encore sur du conflit asymétrique, mais vraiment sur des actions très ponctuelles. Par exemple, ils ne se montraient plus avec de l'armement lourd monté sur l'arrière des pick-up. Je parle de canons, de lance-roquettes ou de choses fixes qui sont de gros calibre. Donc on le voyait.
Rappelons que l'arme de prédilection des djihadistes, notamment au Sahel, pas que là, et globalement le pick-up, plus que tout le reste, mais que donc, quand on monte une 12-7, enfin donc une mitrailleuse lourde à l'arrière d'un pick-up, bah, c'est pratique parce que ça fait une plateforme de tir assez puissante, mais le problème c'est qu'on peut pas le démonter vite. Donc quand vous nous dites qu'ils avaient plus des trucs fixes, ça veut dire qu'ils essayaient vraiment de se fondre dans le paysage.
C'est tout à fait ça.
Ce qui se fait moins facilement quand on a une 12-7 à l'arrière du camion, évidemment.
Voilà. Donc ils étaient plus sur ce qu'on peut appeler des modes désilhouettés. Donc ils se fondaient dans le paysage exactement, tout comme le faisaient les talibans en Afghanistan, comme tout bon guerrieros. Voilà.
Et alors, il s'agissait de traquer. Alors ce jour-là, ce moment-là, de l'histoire de l'opération que vous allez nous raconter, qu'est-ce que... En gros, c'était quoi votre quotidien ? C'était, donc, vous étiez sur Puma, donc il s'agissait de transporter d'autres personnels, il s'agissait de faire, disons, pas le taxi, mais d'amener des personnels d'un endroit à l'autre, il s'agissait de guetter, de faire de la veille. C'était quoi votre mission à ce moment-là, dans cet endroit-là ?
Oui, alors, notre mission, elles étaient vraiment multiples. Comme vous le dites, on a cette fonction de transport pur, qui est extrêmement utile dans un milieu aussi immense que le désert malien, dans lequel les axes sont particulièrement dangereux, puisque minés, puisque on peut également s'embourber à la saison des pluies, et surtout les délais de route sont énormes. On n'a pas d'autoroute au nord Mali. Donc notre mission, une de nos missions premières, c'était bien sûr de relier les différentes villes au Mali, au profit de la force Serval à l'époque. Donc beaucoup de logistique, beaucoup de fret, entre Gao, Kidal et Tessalit, et Tombouctou, qui sont nos quatre principales bases, enfin une grosse base Gao, et les trois satellites, un petit peu à l'époque, même si d'autres se créent, mais c'était les trois principales. Mais il faut faire attention, parce que quand on parle d'hélicoptères de manœuvre, on a tendance à tout de suite penser à cette fonction très logistique. Mais en fait, nous on les appelle hélicoptères de manœuvre et d'assaut, tous ces Puma, Cougar, Caïman, parce qu'ils ont une fonction qui est essentielle à l'aérocombat moderne, qui est le transport de troupes, l'assaut par air, avec des troupes donc au contact, ou proche du contact. Également sur ces hélicoptères, j'en parle de manière un peu anecdotique, mais sur ces hélicoptères, on peut monter des plateformes de tir telles que le canon de 20, ou aujourd'hui, c'est assez récent, des mitrailleuses de 12,7 mm. Voilà. Donc, à l'époque, on le faisait.
À la fois, c'est une plateforme d'assaut parce que vous pouvez emmener des groupements de type force spéciale sur un endroit très précis, et en même temps aussi parce que si on décide de l'équiper, votre machine peut elle-même devenir une plateforme de tir puissante.
C'est exactement ça. Et d'ailleurs, sur la partie de Serval 1, c'est-à-dire le début de l'opération Serval en janvier-février 2013, le canon de 20 mm a été énormément utilisé sur Puma. Voilà, ça a été une arme d'appui quand le Tigre n'était pas disponible, quand la Gazelle n'était pas disponible ou n'avait plus de munitions. Le Puma canon de 20, d'ailleurs il a toujours été très utile en Afrique, a été très utilisé. Donc il faut savoir qu'on peut l'employer comme ça, même si ce n'est pas son emploi le plus courant, bien sûr. Et donc, pour terminer, c'est là où un peu s'introduit mon histoire. En effet, notre emploi, à l'époque, ne se résumait pas uniquement au transport entre les différentes plateformes, au transport de fret et logistique, mais on montait quelques opérations, donc plus ou moins grosses, qui ne portaient pas forcément directement leurs fruits, mais qui permettaient de s'aguerrir au désert et également de montrer que la France était présente même dans des zones qui étaient hors des axes. Et on avait compris, en fait, je dis on, mais ce sont mes camarades avant moi, les mandats avant que j'arrive, qui avaient compris que on était souvent confronté à ce qu'on appelait des fuyantes, c'est-à-dire des gens qui s'enfuyaient en véhicule, qui ne restaient pas sur place, et dont on savait qu'ils étaient clairement mêlés aux djihadistes, mais on n'avait aucun moyen de les intercepter, de les arrêter, parce que leur pick-up étant extrêmement maniable dans le désert, extrêmement puissant, léger surtout, ces gens également étant extrêmement aguerris au milieu désertique, ils étaient trop rapides pour qu'on puisse les intercepter. Et alors, en hélicoptère, l'hélicoptère semblait l'outil un petit peu évident pour les intercepter.
C'est-à-dire, s'il y a une attaque sur un village, etc., et qu'ils partent en pick-up, c'est pas avec un VAB qui vont être attrapés.
Non,
en revanche,
un VBL.
Ou même un VBL. Mais en revanche, s'il y a un hélicoptère, il voit loin, il va vite, là, ça peut être éventuellement l'outil de choix, quoi.
Et puis, c'est surtout, en fait, que la plupart du temps, quand il y a une attaque sur un village, ou n'importe quelle attaque, ou n'importe quel renseignement qui dit que les djihadistes sont présents à tel endroit, le temps que vous y alliez, ils le savent, parce qu'ils ont des gens à eux dans tous les villages, ou ils ont des gens à eux d'une manière générale, qui les préviennent, et à partir de là, ils quittent la zone. Alors qu'en hélicoptère, on peut les rattraper. En fait, on peut les rattraper au milieu du désert, même une fois qu'ils ont déjà quitté les lieux. Voilà. Donc en effet, j'avais des camarades à cette époque qui... Des pilotes donc d'hélicoptères de manœuvre et également de gazelles qui réfléchissaient à créer une nouvelle méthode. Alors, pas tout à fait nouvelle, parce que les forces spéciales en avaient déjà une, mais on ne pouvait pas forcément se calquer sur ce qu'ils faisaient exactement. Et ils ont établi une procédure pour intercepter des véhicules, qui était quelque chose de complètement novateur. Donc, forcément, vu de mon point de vue, moi qui étais jeune chef de bord, jeune chef de patrouille sur cette opération extérieure, sur ce premier mandat au Mali, c'était quelque chose de très naturellement d'assez excitant.
Donc on vous explique la manœuvre, on vous explique la technique, et puis donc quoi, un jour se présente la situation où,
voilà,
où ce serait possible de l'utiliser.
C'est à peu près ça, si ce n'est qu'avant on s'est quand même entraîné, parce que malgré tout... entre l'explication sur le papier et la réalisation avec un hélicoptère qui vole à 240 km/h et qu'il faut potentiellement arrêter près d'un véhicule pour pouvoir faire débarquer vos commandos, parce que c'est ça le principe, pour qu'ils aillent arrêter les gens qui sont dans le véhicule. Il y a quand même un gap, il faut quand même s'entraîner un petit peu pour que ce soit réalisé dans des temps assez contraints, pour pas que vous mettiez 10 minutes à poser votre hélicoptère à 1 km du véhicule, et puis que ce soit fait en sécurité, que les armes de bord, parce qu'on est armé de mitrailleuses d'autodéfense, de mitrailleuses de 7,62 d'autodéfense à l'arrière sur les hélicoptères de manœuvre, il fallait qu'elles soient dirigées dans la direction de la cible. Donc tout ça, c'était toute une procédure qu'on devait répéter avant. Donc on l'a répété pas mal de fois sur des véhicules à nous, hein, bien sûr. Et puis à vide, à blanc, comme ça, dans le désert. Et globalement ça semblait fonctionner, ça semblait pouvoir fonctionner. On avait mis pas mal de limites, il fallait pas qu'il y ait de l'armement lourd en cabine, bon ça, normalement il n'y en avait pas, il fallait qu'on puisse compter les gens à l'intérieur pour être sûr qu'on s'attaque pas à trop gros et que du coup les hélicoptères aient un souci, et puis il fallait qu'on ait du renseignement quand même suffisamment sûr. En tout cas, nous, de notre point de vue d'exécutant, puisqu'on était le dernier maillon de la chaîne, il fallait qu'on ait un renseignement suffisamment sûr, même si on ne peut jamais savoir, nous, à notre niveau.
Et donc, ce jour-là,
c'était un contexte assez particulier, parce que il y avait eu un événement assez tragique à ce moment-là. On était tous... un petit peu, pas sous le choc, mais disons qu'on était tous remontés, je pense. On voulait trouver les coupables, entre guillemets. Et ce jour-là, on était déployés sur une petite plateforme dans le désert, une petite plateforme opérationnelle, et on a le renseignement qui tombe, qu'il faut le renseignement selon lequel on a un véhicule qui a à son bord des djihadistes qui sont avérés, qui sont confirmés, et que ce véhicule est en visuel d'un, on va dire d'un drone, en visuel d'un drone, il est suivi par un drone qui peut nous guider jusqu'à lui pour l'intercepter. Et on a l'ordre de décoller et de l'intercepter. Et donc on était prêt, on était en alerte parce qu'on savait que c'était, on attendait ce renseignement en fait. C'était vraiment quelque chose de, bon, on y croyait à peine. On y croyait à peine parce que ça nous paraissait, l'ennemi nous paraissait tellement diffus, tellement difficile à saisir que ça paraissait dingue qu'on puisse avoir enfin le renseignement solide et qu'on puisse réaliser l'interception. Et donc on décolle et on a volé environ 40 minutes en actualisant avec le drone les coordonnées exactes de la cible. Donc on actualisait, il faut imaginer qu'on était en vol. Donc moi j'étais en place gauche puisque j'étais chef de bord. Le chef de bord n'a pas les commandes habituellement parce qu'il doit se consacrer à la radio, à la navigation, même s'il est lui-même pilote. Et donc j'étais chef de bord et je prenais en compte les coordonnées qui m'étaient données par le drone à la radio, qu'on n'entendait pas forcément très bien, qui étaient codées, donc il fallait les copier et puis les décoder, parce qu'on était sur des fréquences qui étaient claires, donc on codait les coordonnées avec des lettres. Et ça marchait d'ailleurs plutôt bien. Et puis, enfin, on arrive sur le véhicule. Donc en tête de module, on appelle ça un module, une patrouille d'hélicoptères mixte. On était 4. Il me semble qu'on était 4. Je ne sais plus si on était 3 ou 4. D'ailleurs, mon souvenir est un peu vague sur ce point-là. On avait un tigre en tête, et on avait les deux pumas derrière, et un troisième qui faisait un peu la liaison avec les chefs, qui n'était pas censé poser normalement. Qui pouvait également emporter du matériel ou des prisonniers supplémentaires.
Donc on voit le tigre, la super plateforme qui est là pour ouvrir le chemin si jamais il y a un truc, et puis ensuite les pumas chargés de commando. Donc j'imagine.
Voilà, c'est exactement ça. Les pumas étaient chargés de commando. Oui, j'oublie l'élément le plus important de notre module, c'était quand même les commandos montagne, qui est un groupement qui a toujours été associé à la LAT, à l'aviation légère, à l'armée de terre. En tout cas à ce groupement d'hélicoptères qu'on avait là-bas à Gao, et on opérait quasiment exclusivement avec eux. Enfin, je dis exclusivement, non, c'est un petit peu exagéré. On opérait beaucoup avec eux, on aimait beaucoup opérer avec eux parce que c'était, on les connaissait très bien, donc forcément c'est plus naturel. Et puis, ils logeaient dans peu d'hélicoptères, à cette époque-là en tout cas. Ils n'étaient pas très nombreux. Et donc on arrive sur le pick-up, parce que c'était un pick-up, on avait les informations du tigre qui était en tête. Dans la procédure, le tigre devait arrêter le véhicule avant qu'on puisse poser les pumas et poser les commandos. Donc le tigre effectue son... il a l'autorisation de tir, alors de tir, ce qu'on appelle de tir de sommation, donc le warning shot, on dit souvent le warning shot. Donc il fait son warning shot bien devant le véhicule pour pas que le véhicule risque d'être touché, parce que malgré tout on ne sait pas qui est dans le véhicule, on n'a pas une confirmation voilà. Donc il y a quand même certaines règles à respecter, donc on tire devant le véhicule et le véhicule s'arrête, et donc là on se dit bah, enfin c'est... Là c'est... on touche au but et on se met sur l'axe de posée, le premier puma en tête, le deuxième c'était moi, je le suivais. Je me rappelle mon impression à cette époque, je trouvais qu'on était vraiment loin du véhicule, je me disais les commandos ils vont devoir quand même pas mal marcher, mais en même temps on savait, encore une fois on savait pas ce qu'il y avait dans le véhicule, on savait pas comment allaient réagir les gens dans le véhicule. Au Mali, et c'est encore vrai maintenant, vous pouvez avoir deux réactions sur une interception de véhicule, la réaction un peu standard. Mais
c'est pas parce qu'ils se sont arrêtés qu'ils sont pacifiques.
Non, pas forcément, ceci dit c'est plutôt un bon signe. C'était plutôt un bon signe. Mais vous pouvez vraiment avoir deux réactions. La réaction standard, c'est le véhicule s'arrête et les gens à l'intérieur ont plutôt peur ou en tout cas sentent qu'il faut rien tenter, que voilà, qu'il suffit peut-être d'attendre, qu'on va les laisser partir. Et puis il y a la deuxième réaction, plus souvent quand ce sont des grands chefs djihadistes. Là, le véhicule se met à accélérer, les gens sautent un peu partout, se dispersent dans le désert, ou alors carrément jouent leur va-tout en tirant sur les hélicoptères, tout en sachant que c'est la fin pour eux s'ils font ça. Donc on se pose, j'en étais là, on se pose, et les commandos partent, ils vont vers le véhicule, nous on redécolle pour se mettre en sécurité, et puis pour observer la scène, pour laisser du champ surtout au tigre, parce qu'en fait là, à ce moment-là de la mission, l'élément clé c'est le tigre, parce qu'en fait c'est l'ange gardien des commandos au sol. Si jamais quelque chose se passe mal, le tigre est capable d'effectuer un tir avec une telle précision que quasiment les commandos pourraient être autour du véhicule. J'exagère à peine en disant ça, que le tigre pourrait quand même les appuyer et tirer. Bon, selon certaines conditions. Hein. Mais dans tous les cas, le tigre était vraiment là pour les protéger. Bon, sachant qu'on avait fait attention d'arrêter le véhicule dans un endroit qui était assez plat, où il n'y avait pas trop d'arbres, où il n'y avait pas trop de rochers, où d'autres gens auraient pu être cachés. Donc normalement, on savait qu'à ce moment-là, on était couverts, on était en sécurité. Donc les commandos vont jusqu'au véhicule, je vous rassure, il s'est rien passé. Les gens sont sortis, ont mis les mains sur la tête, et les commandos les ont capturés, parce que c'était l'ordre qu'on avait à ce moment-là, et que c'était des cibles avérées.
Ils étaient armés.
Ils étaient armés, oui, pas mal de matériel, j'en parle à la fin. Et donc, ils nous font les comptes rendus à la radio. Pendant ce temps-là, nous, on suit, on note, parce qu'on sait qu'on a notre carburant, on va devoir les ramener eux, on va devoir ramener probablement des personnes sous contrôle, et on va devoir ramener du matériel, parce que le matériel, ensuite, est analysé. Ça fait partie de toute l'analyse de la chaîne de renseignement. C'est toujours comme ça, c'est la procédure standard. Et donc on note, et bon, on a vu que rapidement on pouvait emmener tout le matériel, on était quand même trois pumas, puis on avait cramé un peu de kéro comme on dit, donc on s'était allégé en utilisant notre kérosène à l'aller, il y avait quand même 40 minutes de vol. Donc on récupère, on a enfin le verre récupération de la part des commandos, on se pose, après évidemment avoir fait tous les comptes rendus au drone qui était au-dessus et qui retransmettait au PC central de l'opération Serval. On récupère les commandos qui reviennent avec les personnes sous contrôle, qui reviennent avec aussi pas mal de caisses, pas mal de matériel. Donc ils nous mettent ça à l'arrière, on regarde ça avec un peu des yeux ronds, parce qu'il y a pas mal de matériel de guerre lourd. Quoi.
Ouais, c'est ça, vous leur avez demandé à un moment, ça explose pas, ce truc.
Bon, bah, a priori, c'était quand même assez bien ficelé. Je pense que voilà, les commandos savent quand même manipuler l'armement, donc ils avaient bloqué tout ça.
C'est un peu le cœur de métier. Ouais.
Voilà, et puis il y avait des caisses pour que ça bouge pas. On ramène tout ça sur notre petite plateforme opérationnelle, et puis voilà, après un petit passage, le passage de la victoire au-dessus de la plateforme, on se pose, et puis on sort tout. Et c'était, là, c'était vraiment un sentiment de victoire qui était quand même assez rare à cette époque, en tout cas, de réaliser une opération.
Enfin, on en a chopé.
Enfin, on les a eus. Et puis là, c'est pas du chiquet, vu le matériel qu'ils avaient. Il y avait un nombre de téléphones satellites, de portables. Quand ils ont des téléphones satellites, c'est forcément... a priori, on s'était pas trompé. Et puis, le nombre de munitions, de grenades... Le calibre des fusils, c'était... Non, ils avaient vraiment du matériel.
C'était pas pour aller faire les courses.
Voilà, et donc on a étalé tout ça sur le camp, et voilà, on a pris quelques photos.
Mais ensuite, vous l'avez dit, ça part analyse, renseignement, etc. Vous avez le fin mot de l'affaire
ou, alors, en ou fait, après, la plupart du temps, la plupart du temps, on n'a pas le fin mot de l'affaire, parce que le principe de renseignement, c'est aussi de cloisonner les choses. Et puis le renseignement, lui, il est utilisé, après il est réutilisé. Alors après, la seule chose qu'on a su, c'était plutôt bien de le savoir d'ailleurs, c'est qu'on s'était pas trompé. On n'a pas eu à les relâcher, à les remettre en liberté. Mais non, on n'a pas eu le fin mot à proprement parler, on n'a pas eu le rapport d'enquête. Mais c'est souvent comme ça, et je pense qu'en tant que militaire, enfin on le sait, à un moment on est un outil, et c'est pas vous rabaisser la fonction de militaire que de dire ça. On est à un moment un outil, on se doit d'être un outil efficace, Quand on est dans ces échelons opérationnels, on se doit aussi d'être un exécutant efficace. Et on n'a pas forcément besoin de savoir tout ce qui est fait de ce qu'on ramène. Et on a besoin de savoir que ce qu'on fait est bien, que ce qu'on fait a du sens, bien sûr. Mais on n'a pas besoin de connaître tous les détails de l'opération pour bien mener une opération. Et je parle de quelque chose que je connais assez peu, mais les gens du renseignement sont encore plus dans ce paradigme que nous. Hein. Les gens de la DGSE, c'est vraiment un état d'esprit qui est reconnu.
Et du coup, après, donc vous avez tenté la nouvelle manœuvre, ça a marché. Du coup, vous appelez tout le monde après pour dire ça marche. Il y a un côté... parce que quand vous êtes... n'importe quoi, on vous apprend des trucs, et puis il y a aussi un degré d'innovation par le bas, c'est-à-dire vous réfléchissez à des choses, vous avancez, vous faites progresser les choses. Est-ce qu'il y a un côté un peu grisant aussi à faire avancer les manœuvres, les doctrines,
Mais complètement. Là, c'était vraiment le cas. C'est vraiment quelque chose qui a... Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a fait date, d'ailleurs. Ça a changé de nom plusieurs fois. On avait mis trois lettres dessus. Et puis, les trois lettres ont changé, les acronymes. Et oui, c'était vraiment... On avait l'impression d'être au... Alors, c'est vraiment... Je le dis vraiment sans prétention, parce que c'est pas moi qui ai eu l'idée de faire ça, de monter ça. Mais voilà, de se dire qu'on était au début... d'un changement de mode d'action. On était au début d'un mode d'action, qui est un nouveau mode d'action qui a été créé par le bas, comme vous dites, très bien. C'est vraiment de l'innovation par le bas, quelque chose qui a été intuité quasiment sur le terrain par les gens qui y étaient à ce moment-là, à Cervalin, et puis qui a été ensuite un petit peu travaillé, qui a été testé, et puis qui fonctionnait. Et ensuite, quand on est revenu en France, quand on est revenu au régiment, après cette grande mission, donc plusieurs mois après, on a fabriqué des briefings, on a essayé de fabriquer un canevas, une procédure qui soit à peu près standardisée, parce qu'on avait des camarades dans les deux autres régiments. La LAT, c'est trois régiments, enfin la LAT des forces conventionnelles, c'est trois régiments, et donc on se devait de répandre cette procédure en la standardisant, parce qu'elle fonctionnait, mais parce qu'il fallait que tout le monde puisse se comprendre. Parce qu'on ne part pas en OPEX, en opération extérieure, qu'avec son régiment. Parfois, on part avec d'autres régiments, même très souvent. Et cette procédure, elle est toujours utilisée. Et moi, je l'ai refaite, oui, je l'ai refaite. Pas sur un mobile, je crois, mais oui, je l'ai refaite de façon peut-être un petit peu plus standard. Alors, c'était pas de l'interception à proprement parler, mais la procédure, on l'a jouée de la même manière sur un petit village dont on savait qu'il pouvait être tenu par l'ennemi. Ouais. Donc oui, on l'a refaite. Et puis on l'a rejouée surtout en entraînement en France. Et maintenant, je crois pas me tromper en disant qu'elle est rejouée quasiment à chaque préparation opérationnelle, qui sont des phases de préparation juste avant la projection. Donc elle est rejouée par nos régiments dans l'aviation légère de l'armée de terre quasiment tous les trois mois, puisque c'est tous les trois mois maintenant qu'on part en mission à Barkhane. Voilà, donc oui, c'était vraiment le début de quelque chose, et c'est pour ça que c'est le souvenir un petit peu marquant de ma première partie de carrière opérationnelle, même s'il y en a d'autres, mais celui-là il est marquant parce qu'on vivait un petit peu cette effervescence de tester, d'avoir trouvé un nouveau mode d'action. Encore une fois, moyennement nouveau, parce qu'il était fait par les forces spéciales, mais pour nous, il était vraiment nouveau. Et puis ça fonctionnait. Donc c'était sympa. Ça changeait des opérations extérieures d'avant, celles qu'on faisait au Tchad, à Djibouti, en Côte d'Ivoire, qui étaient parfois un petit peu plus tranquilles, un petit peu plus conventionnelles. Voilà, c'était... Puis Barkhane, c'était nouveau. Enfin, Serval, c'était nouveau aussi à l'époque. Donc ouais, c'est des bons souvenirs.
Très bien. Merci beaucoup, commandant Arthur.
Merci.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.